Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à la baie, la ville natale de Saïfon qui était notre invité, 23h au Casino de Paris où sera Saïfon ce samedi 7 juin. Et le journal est présenté par Mathis Limano, bonsoir Mathis.
Et bonsoir Claudie, bonsoir à tous. Un nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington bloque un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu à Gaza. Il prévoyait aussi la levée des restrictions de l'aide humanitaire alors que la distribution est à l'arrêt dans l'enclave où 48 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Pas de paix immédiate en vue en Ukraine. Donald Trump donne le ton après son appel téléphonique avec Vladimir Poutine et prévient la Russie va répliquer aux attaques ukrainiennes du week-end. Volodymyr Zelensky appelle à ne pas se montrer faible face à Vladimir Poutine. À suivre aussi l'inquiétude de la filière de l'acier en Europe. Les droits de douane américains sont en vigueur depuis aujourd'hui. Et puis nous serons à Roland-Garros en fin de journal où Novak Djokovic et Alexander Zverev tentent en ce moment de décrocher une place en demi-finale du tournoi du Grand Chelem. C'était attendu au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis posent leur veto à une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, ainsi que la levée de toutes les restrictions à l'entrée d'aide humanitaire. Le texte a recueilli 14 voix pour et une contre. Pendant ce temps, les habitants de l'enclave étaient privés d'aide aujourd'hui. Les centres de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza, soutenus par Israël et les États-Unis, ont fermé officiellement pour des travaux de rénovation, alors que plusieurs événements meurtriers ont eu lieu ces derniers jours aux abords de ces centres. Quant au bombardement de l'armée israélienne, la défense civile revoit son bilan à la hausse et fait état d'une cinquantaine de victimes ces dernières 24 heures. À Blajounaïdi, ce matin, à l'ouest de Khan Younes, une frappe a fait au moins 18 morts dans une école hébergeant des familles.
Le bilan de cette frappe n'a cessé de s'alourdir au fil de la journée de mercredi. Une partie des victimes, dont des enfants, ont été emmenées par la défense civile à l'hôpital El Nasser. Plusieurs de ces civils venaient de zones récemment prises pour cible par l'armée israélienne, comme Al-Mawassi, où trois Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués ce mercredi, selon la défense civile. Il y a eu de nouveaux ordres d'évacuation pour la zone de Khan Younes, dans le sud de Gaza. Israël interdit aussi aux civils d'emprunter les routes menant au site de distribution de l'aide également dans le sud. On a vu ces derniers jours que ces points représentaient un danger mortel pour la population affamée. Il y a eu plusieurs autres attaques meurtrières à Gaza ce mercredi. Dans le centre, une frappe a touché les abords d'une antenne universitaire à l'ouest de la ville de Gaza. Une autre attaque a touché une tente abritant des personnes déplacées, cette fois à Deir el-Balah. Au moins une personne a été tuée et plusieurs blessés selon un responsable de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, tout proche, et lui aussi touché par une frappe au niveau du toit, là où se trouvent les panneaux solaires destinés à alimenter l'hôpital en électricité.
À Blajounaïdi, en Syrie, une ONG rapporte la mort de 8 civils alaouites dans la province centrale de Hama. Leur bus était arrêté à un poste de contrôle des forces de sécurité lorsque ces dernières ont ouvert le feu. Plus tôt dans la journée, 5 membres de cette même minorité avaient été retrouvés morts en détention. Les alaouites sont régulièrement pris pour cible par les forces de sécurité syriennes. Nouveau coup de fil et nouvelle désillusion. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont appelés pendant plus d'une heure sur l'Ukraine. Premier appel depuis l'attaque ukrainienne massive du week-end dernier. Et il n'y a pas de paix immédiate en vue, d'après le président américain, qui prévient que Moscou ripostera aux attaques ukrainiennes. Réaction de Volodymyr Zelensky, qui appelle à ne pas se montrer faible face à Vladimir Poutine. Il se dit aussi prêt à un sommet n'importe quand avec ses homologues russes et américains. Il estime que les pourparlers en cours à Istanbul n'ont pas de sens.
Je crois que la deuxième réunion bilatérale à Istanbul n'a pas été différente de la première. Les Russes ont présenté les mêmes ultimatums que la dernière fois, mais par écrit. Le mémorandum est identique à ce qu'ils ont dit lors de la première réunion à Istanbul, avec des demandes irréalisables. Ils cherchent à repousser les sanctions le plus possible, car ils craignent les sanctions. Les Russes savent que c'est un ultimatum et ni l'Ukraine ni personne ne peut le considérer sérieusement car c'est un ultimatum. Ce n'est pas un mémorandum d'accord. Un mémorandum d'accord doit pouvoir être accepté par les deux camps, pas contenir les demandes d'un seul camp. On ne peut pas appeler ça un mémorandum. Ce que la Russie nous a adressé, c'est un ultimatum.
Et autre coup de fil dans la soirée, celui-là entre Vladimir Poutine et le pape. Léon XIV a souligné l'importance du dialogue entre les deux camps et a appelé le président Poutine à faire un geste pour la paix en Ukraine. Et puis, au moins 14 personnes tuées dans un bombardement sur un camp de déplacés au Soudan. Ça s'est passé au Darfour. Les secouristes accusent les paramilitaires d'avoir attaqué un marché des habitations dans le camp d'Aboutchouk, tuant 14 personnes et en blessant plusieurs autres. Ils sont entrés en vigueur aujourd'hui, les 50% de taxes sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Réaction immédiate des partenaires commerciaux des Américains. La présidente mexicaine dit préparer des contre-mesures. Le premier ministre canadien dénonce, lui, des droits de douane illégaux et injustifiés. Coup dur aussi en Europe pour les industriels de l'acier, alors que la filière subit une forte baisse de la demande. Axel Egert est directeur général d'Eurofer, l'association européenne de l'acier qui défend les intérêts de l'industrie à Bruxelles. Et d'après lui, si un accord n'est pas trouvé très vite avec Washington, c'est la survie de la sidérurgie européenne qui pourrait être menacée.
Nous attendons à ce que le détournement massif des 27 millions de tonnes d'acier auparavant destinées aux États-Unis sera désormais redirigé vers le marché européen. Ça vient à un moment qui n'est pas du tout le bon pour notre industrie qui essaye de maintenir des emplois en Europe, mais maintenant avec les surcapacités massives jamais vues globalement dans les 2-3 ans qui viennent, on pense que les surcapacités mondiales vont augmenter jusqu'à 720 millions de tonnes. C'est quand même 5 fois plus que la production en Europe. Et si ça, une grande partie de ça arrive avec un prix très bas en Europe, bien sûr, on parle de la possibilité de la sidérurgie en Europe qui va disparaître.
Axel Egert d'Eurofer avec Nathanaël Vitran. Le premier ministre de la Bulgarie salue un jour exceptionnel. Son pays pourrait adopter l'euro comme monnaie nationale dès l'année prochaine. Ce mercredi, la Commission européenne a validé la candidature de la Bulgarie qui deviendrait ainsi le 21e État de la zone euro. Réponse début juillet lors d'un vote des ministres de l'UE qui devrait être une formalité. Et puis on connaît désormais les affiches des demi-finales femmes à Roland-Garros. Arina Sabalenka, la première mondiale contre Iga Swiatek. Dans l'autre rencontre, la sensation française Loïs Boisson opposée à Coco Gauff. Chez les hommes, le tenant du titre Carlos Alcaraz contre Lorenzo Musetti. Tandis que le numéro 1 mondial Yannick Sinner sera opposé soit à Novak Djokovic, soit à Alexander Zverev. Le match est en cours et vous y êtes pour RFI, Eric Mamrut. Eric, on est dans le 4e set et Djokovic est passé devant.
Effectivement, Novak Djokovic qui avait démarré tranquillement, mollement même cette partie, à l'inverse de son adversaire allemand, Alexander Zverev, le numéro 3 mondial. Très bon set, très bon premier set signé Zverev, 6-4, et puis petit à petit, il s'est étiolé, on ne sait pas pourquoi. Un mauvais jeu de service dans le deuxième set, Djokovic en profite pour le remporter 6-3. Et après, panne de courant, encore plus prononcée chez l'Allemand. Il a pris 6 jeux d'affilée à partir de 2 jeux partout dans le troisième set. 6-0 pour faire que Djokovic mène 6-2 dans la troisième manche et ensuite 2-0. Il a fait le break déjà le Serbe qui est au service pour confirmer son break d'avance. Match très étrange véritablement de la part du plus jeune des deux, 28 ans pour Zverev, 38 pour la légende serbe. On ne comprend pas pourquoi il fait autant de fautes maintenant. Grossière, Sacha Zverev. Bon, ben Novak Djokovic, lui, il engrange les points, évidemment. Il va pas s'en priver, lui qui eh bien veut montrer qu'il peut toujours mater les plus jeunes. Mais bon, s'il parvenait à se qualifier, il ferait en demi-finale, eh bien qu'il en mate un encore plus jeune et encore meilleur, le numéro 1 mondial Yannick Sinner, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, s'est qualifié pour les demi-finales. Bon voilà, pour l'instant, avantage Djokovic.
Merci Eric Mamrut, une place en demi-finale de Roland-Garros a décroché donc pour Alexander Zverev ou Novak Djokovic. Autre demi-finale en Ligue des Nations de football, celle-là, Allemagne-Portugal. Et ça vient de se terminer, victoire 2-1 pour les Portugais. Ils retrouveront en finale l'Espagne ou la France, réponse demain soir. Et d'ici là, le foot continue sur RFI, les 23h10 à Paris. Et dans une poignée de secondes, Radio Foot International.